Dans Ésaïe 61, Dieu dit ce qu'il veut faire au travers de Jésus-Christ. Dieu dit ce qu'il veut faire ce soir. Pourquoi Jésus-Christ est venu? Pourquoi le Saint-Esprit est au milieu de nous? Pourquoi avons-nous des réunions de prière? Lisons-le. Ésaïe 61, verset 1er. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Est-ce qu'il y a des malheureux aujourd'hui? Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pas quelques-uns, tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Amen. Voilà ce que doit être l'Église, une plantation de l'Éternel pour célébrer sa gloire. Si on va dans le psaume 41, David avait compris cette dimension de réclamer les promesses de Dieu. On est tous fragiles, on est tous faillibles, on a tous des difficultés. David était un homme selon le cœur de Dieu. Et pourtant, dans le psaume 41, regardez au moins ce qu'il dit. « Car ce que Dieu promet, il faut le réclamer. » Psaume 41, verset 5, « Je dis, Éternel, aie pitié de moi, guéris mon âme. » Voilà la prière de David, « guéris mon âme. » Il exprime sa prière. On l'a chanté, « Prie quand tout va bien, quand tout va mal, quand tu es dans la grâce, quand tu es dans le désespoir. Prie, prie. » David a été un homme selon le cœur de Dieu, car quand ça n'allait pas, il priait. Quand ça allait bien, il priait. Mais on le voit là, il dit au Seigneur, guéris mon âme. On ne sait pas ce qu'il y avait. Bon là, il l'attribue à un péché. Mais on peut être malade à cause du péché des autres. On peut être malade à cause de maintes et maintes souffrances. Et nous avons la promesse de Dieu. Il est venu pour guérir. Ce soir, Dieu peut nous guérir à tous. Tous. Alors il y a les guérisons physiques. Combien de fois on a entendu, j'aurais préféré me casser une jambe? On n'a jamais dit ça? Vous l'avez jamais entendu? Mais c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'il y a des souffrances intérieures, des blessures intérieures qui sont plus graves qu'un bobo physique, qu'une plaie extérieure qui se guérit avec quelques soins. Merci Seigneur pour les soins. Mais il y a des soins qui ne peuvent pas se guérir par les médicaments, par la médecine, par des soins traditionnels. Il faut la grâce de Dieu. Lisons encore un homme qui a exprimé sa souffrance. Dans le prophète Jérémie, est-ce que Jérémie était un homme de Dieu? Est-ce que, vous savez, c'est quelqu'un Jérémie, hein? Eh bien regardez, à un moment donné, il passe un moment difficile. Et tout ça, Dieu veut qu'on le sache. À un moment donné, il a une plaie, elle est intérieure, elle est dans son cœur. Jérémie 15. C'est beau de voir dans la Bible que les hommes de Dieu, choisis par Dieu, utiles pour Dieu, en bénédiction pour l'œuvre de Dieu, ils ont exprimé leur souffrance, ils ont exprimé leur plaie. Regardez, Jérémie chapitre 15, verset 18. Moi je trouve que c'est extraordinaire comment Dieu a voulu que nous comprenions ces choses. Dieu n'a pas voulu nous montrer ces hommes de Dieu extraordinaires comme des hommes infaillibles, comme des hommes qui avaient des victoires à prendre. Et ce soir, si vous avez une victoire à prendre, prenez-la. Ne restez pas là en observation, juste en spectateur. Soyez participants et que votre cœur saisisse la guérison. Jérémie 15, verset 18, c'est quelqu'un encore. Vous voyez, pourquoi? Vous voyez, question. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? Mais ce texte, il ne serait pas dans le livre de Jérémie. Moi, je redis, ce n'est pas possible. Un homme de cette trempe ne peut pas avoir osé prononcer cette parole devant Dieu. Pourquoi ma plaie ne veut-elle pas guérir? Pourquoi je ne guéris pas? Mais il est en train de répandre son cœur devant Dieu. Il répand son cœur devant Dieu. J'ai souvent dit que nos souffrances profondes, c'était parfois bien d'en parler aux autres, mais c'était surtout bien d'en parler au Seigneur. Et on voit David, il parle à Dieu. Souvent, on s'identifie à David. Mais c'est vrai si on répand son âme devant Dieu. Le Seigneur Jésus est-il venu pour guérir? Dieu a-t-il entendu la prière de David? Dieu a-t-il entendu la prière de Jérémie? Oui, et le Seigneur les a bénis, malgré les difficultés qu'ils ont rencontrées. Et ce soir, Dieu regarde dans votre cœur. Il vous aime, le Seigneur. Et il ne veut pas que nous restions dans une espèce de fatalité, de statu quo. Vous savez, les gens, ils disent, voilà, c'est comme ça. C'est pire ailleurs. C'est plus grave ailleurs. Et c'est vrai. Mais est-ce que c'est parce que c'est pire ailleurs, il faudrait que nous restions dans le statu quo, que nous acceptions la défaite, que nous acceptions la tiédeur, que nous acceptions un état de fait? Non. Mes frères et sœurs, si nous sommes dans la grâce de Dieu, Dieu peut faire surabonder sa grâce. Et vous avez le droit ce soir de dire, de poser des questions au Seigneur. Faites attention avec les gens, parce que nous, on ne peut pas tout comprendre. On peut ouvrir son cœur à quelqu'un, mais souvent le mieux, je le répète, c'est de le répandre devant le Seigneur. Et Seigneur, Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. L'homme a besoin de remèdes sérieux. Vous le savez, Dieu reproche souvent dans la Bible, quelque chose, on va le lire. Dieu reproche lorsque les choses sont superficielles. Dieu reproche au pasteur d'avoir été très léger dans la façon de soigner les brebis. D'ailleurs, regarde avec moi dans Jérémie, au chapitre 6. Ce sont des choses qui sont écrites, vous savez, il faut que nous comprenions que quand on se retrouve devant Dieu, il y a une grande joie. C'est vrai, comme on l'a chanté. Moi, j'aime commencer une réunion avec un cantique sur la joie du salut, parce qu'il y a une joie d'être sauvé. Mais il y a après les problèmes, il y a les besoins, et il y a la façon dont Dieu veut que nous soignions les gens. Et regardez ce que Dieu va dire aux pasteurs de l'époque, pour expliquer que c'est ce qu'on va voir ce soir, que les choses elles doivent être sérieuses et profondes. Jérémie chapitre 6, regardez verset 14. Il pense à la légère, la plaie de la fille de mon peuple. Paix, disent-ils. Et il n'y a point de paix. C'est facile de dire, oui, tout va bien. Mais voyez, Dieu fait un reproche sévère aux pasteurs de l'époque. Il dit, voilà, mais vous n'avez pas soigné le peuple de Dieu. Vous avez dit qu'il y avait la paix alors qu'il n'y avait pas la paix. Et il faut faire attention à ne pas tomber dans cette espèce d'autosatisfaction. T'as mieux si bien des choses vont. Mais s'il y a des blessures, il faut laisser le Seigneur y aller et les guérir. Oui, l'homme peut refuser les soins. Des gens refusent de se faire soigner. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui refusent de se faire soigner? Physiquement, il y a des gens, ils sont atteints. Non, ils ne veulent pas se faire soigner. C'est leur choix. Mais de la même manière que physiquement, on peut refuser, de la même manière, spirituellement, tout en étant chrétien, on peut refuser et vivre d'une manière superficielle. Oh, ben si, tout va bien. Non, ça va. J'ai besoin de rien. Bon, c'est un choix. Mais ce n'est pas ça qui contribue à faire la plantation qui va célébrer la gloire de Dieu. Car on voit que Dieu guérit, Dieu restaure, Dieu délivre, Dieu change le deuil en allégresse pour que l'Église soit utile. Est-ce que c'est important pour vous d'être utile? Ou est-ce que vous ne pensez qu'à vous? Et vous dites, moi je veux être béni, et je veux être béni. Il n'y a que moi, moi sachez que je sois béni. Les autres, je ne dis pas que je m'en fiche parce que ce n'est pas bien. Mais c'est, en vérité, c'est pareil. Est-ce que c'est important pour vous d'être béni pour que les autres soient bénis? Vous savez, Dieu regarde à vos amens et à vos acquis. Peut-être vous ne le dites pas, mais vous dites dans votre cœur, mais oui, c'est ça. Je n'ai pas envie d'être un arbre inutile, que la Bible parle des arbres inutiles qui devra arracher. Ne nous contentons pas de superficialité. Cherchons la profondeur, cherchons les racines. Si nous ne voulons pas aller en profondeur, certaines choses ne se produiront pas. Alors, est-ce que vous permettez à Dieu d'aller en profondeur? Est-ce que vous dites à Dieu, Seigneur, tu peux aller au plus profond de mon cœur, tu peux aller au fond des choses, tu peux me montrer ce qui ne va pas? Parce que des fois, quand Dieu utilise quelqu'un pour nous montrer les choses, on dit bien, Seigneur, montre-moi. Mais si c'est Dieu utilise quelqu'un, parce que Dieu peut utiliser votre conjoint, un de vos meilleurs amis, les blessures d'un ami. Moi, je me souviens la première fois où je dis, Seigneur, mais montre-moi s'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ma femme, avec le fardeau, vraiment, avec beaucoup de peine, est venue me dire, mais Gérard, il y a de l'orgueil dans ton cœur. Je me dis, mais de quoi tu te mêles? Et c'était vrai. J'avais demandé à Dieu qu'il me parle et je n'ai pas accepté la personne par laquelle Dieu passait. Et quand je parle à l'improfondeur, il faut être capable de dire, Seigneur, mais si tu veux utiliser quelqu'un, fais-le, Seigneur. Oui ou non? Est-ce que vous acceptez que Dieu utilise quelqu'un, un ami, mais aussi quelqu'un qui n'est pas forcément un ami, un frère, une sœur, pour aller au fond des choses? Vous savez, quand on commence à laisser le Saint-Esprit agir, il peut se passer des choses. Et on va voir quelques situations où justement, Dieu veut aller en profondeur. Regardez, dimanche, on a partagé de l'importance de dépendre de la grâce afin de retrouver le premier amour. L'église d'Éphèse, dans le livre de l'Apocalypse, pour ceux qui n'étaient pas là, on va y retourner, elle avait un problème. C'était une église qui marchait bien, c'était une église sérieuse. Dieu fait plein d'éloges à cette église. Elle fait plein de choses. Elle est sérieuse, vraiment. Mais voilà, elle dépend de ses œuvres, elle dépend de ses forces. Elle se gargarise un peu de ce qu'elle fait. Et elle tombe dans un travers. Elle abandonne le feu du premier amour. Et Dieu appelle ça, c'est grave, c'est comme les vierges folles, elles n'ont pas d'huile, nous on dit, bon, c'est pas grave, c'est un oubli. Dieu dit que c'est de la folie. Là, lorsque Jésus parle de l'abandon du premier amour, il dit que c'est une chute. Apocalypse 2, verset 4, « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Bon, ça c'est le constat, c'est le problème. Dieu, cette église a envie d'entendre la voix de Dieu, elle est sérieuse en même temps, voyez, c'est pour ça que Dieu a pu lui parler. Et Dieu, qu'est-ce qu'il dit ? Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Voyez, il donne un premier conseil, souviens-toi donc. Voyez, il y a une réflexion, c'est pas bon, j'ai abandonné le premier amour, bon, mais Seigneur, redonne-moi le premier amour. C'est pas ça la solution. C'est beaucoup plus sérieux, souviens-toi, où ça s'est passé ? Où ça a commencé ? Où ça a commencé le problème ? Où c'est que tu as commencé à te faire piéger ? Où c'est que tu as commencé à troquer la communion avec Dieu pour le service pour Dieu ? Où c'est que tu as commencé à troquer la joie du monde contre la joie de Dieu contre certaines choses de la terre ? Il y a des conseils, souviens-toi d'où tu es tombé, repens-toi et pratique. Les premières œuvres, c'est cette communion de cœur à cœur avec le Seigneur. Il faut aller là où il y a le problème. Souvent, je le vois dans mes entretiens, je ne suis pas un spécialiste, mais quand même, on a l'habitude, on donne des conseils, et on voit que les gens, des fois, ont du mal à vouloir aller là où il y a le problème. Ils vont dire, priez pour moi, jeûnez pour moi, imposez-moi les mains, c'est bien, et je crois que c'est bien. Mais moi, je crois que lorsque le Seigneur dit, souviens-toi d'où tu es tombé, ça ne dépend plus de l'imposition des mains, ça dépend d'un examen profond. Lorsque ce prophète avait tombé le fer, vous vous rappelez, c'est dans Deux Rois, ça. Vous vous rappelez cette affaire ? C'est qui nous a prêché dessus il n'y a pas longtemps ? Nathanaël ? C'est Nathanaël. Deux Rois, chapitre 6. On va pas tout lire, on va lire juste ce qui est demandé, voyez ? Deux Rois, chapitre 6, parce qu'on n'a pas le temps, mais vous pourrez lire ces choses chez vous. Bon, ce brave écolier, hein, il est là. Verset 5, 2 Rois 6, verset 5. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, « Ah, mon Seigneur, il était emprunté !» L'homme de Dieu lui dit, « Où est-il tombé ?» Et il lui montra la place. « Où est-il tombé ? Montre-moi l'endroit où il est tombé. » Vous voyez, je crois que parfois, il n'y a pas de guérison. Alors c'est vrai que moi je crois à la puissance du Saint-Esprit. J'y crois vraiment. Parce que c'est par grâce que Dieu guérit. Et que ce soir, que vous soyez guéri par le fait que vous examiniez votre vie, et si vous êtes un nouveau, que vous soyez malade, vous ne connaissez rien, vous n'allez rien comprendre dans la prédication, écoutez, Dieu peut vous guérir quand même. Mais il y a des guérisons qui s'obtiennent par le fait d'être honnête avec Dieu. J'ai terminé mardi dernier, si vous vous souvenez, en disant que Dieu voulait que l'on mène une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. L'honnêteté consiste à dire, oui, je vais arrêter de courir à droite et à gauche. Il y a des gens qui font tous les séminaires possibles et imaginables en espérant obtenir une certaine onction de par un certain ministère. Ils peuvent faire tous les séminaires, ils changent d'église, alors là je ne suis pas forcément contre, mais vous savez, on transporte les problèmes là où on va. Vous comprenez ce que je veux dire ? Si on ne règle pas un problème, on le transporte. Et j'ai souvent vu des personnes qui ont eu ce problème, qui sont venues de notre église, qui n'ont pas réglé le problème, j'ai dit, vous ne réglerez rien en changeant d'église. Je ne suis pas contre le fait, mais s'il y a un problème, il faut le régler. Fuir ne règle pas les problèmes. Où es-tu tombé ? Où as-tu commencé ? Où as-tu commencé à te tourner vers les choses de la terre ? Il y a des gens, on apprend des fois qu'un chrétien commence à boire. On apprend ça. On l'a déjà entendu. qu'est-ce que c'est qui t'a poussé à chercher de cette compensation dans de la drogue? Qu'est-ce qui s'est passé? Rappelle-toi, voyez, souviens-toi. Et il se pourrait ce soir que peut-être le Seigneur vous montre quelque chose. Ah, c'est ce jour où je me suis fâché avec mon patron et je ne l'ai jamais pardonné. On entend des fois des chrétiens, ça nous effraie dire « je ne pardonne pas ». Oh, que c'est triste mes frères et sœurs. C'est pas vrai? C'est pas triste? Et là, le gars, il faut qu'il pardonne. J'ai connu une sœur, moi, une inconvertie, qui venait à l'église depuis des années, qui avait de la haine contre son gendre, parce que, bien sûr, cet homme avait fait souffrir sa fille, et cette femme, elle n'était pas chrétienne, mais cette femme, elle ne pouvait même pas se convertir à cause de la haine. Et je l'ai vue pendant peut-être un an, cette femme, venir à l'église, mais elle était misérable, misérable. Et un jour, que je prêchais sur le pardon, un dimanche matin, je ne savais pas qu'elle était à l'église, elle venait que l'évangélisation, elle a compris qu'il fallait qu'elle pardonne son gendre, même si son gendre avait tort. Il a fallu qu'elle a compris qu'il devait le pardonner. Et quand elle est arrivée chez elle, elle a pris le téléphone, et quand elle a pris le téléphone pour l'appeler, pour lui demander pardon, le Saint-Esprit l'a guérie. Mais écoutez, elle est arrivée l'après-midi, moi je commençais la réunion, je ne l'ai pas reconnue. Elle s'était bien habillée, pomponnée, un petit peu maquillée, mais la plantation de gloire, là oui. Ah, mais j'ai compris. Elle me dit, monsieur Hugo, j'ai quelque chose à vous dire, c'est pas la peine. Elle me dit, Dieu m'a guéri. Des années qu'elle souffrait. Oui, elle s'est rappelée qu'un jour où sa fille pleurait parce qu'il l'avait battue, elle avait décidé de la haïr. Où es-tu tombé? Souviens-toi d'où tu es tombé. Nous avons un Dieu qui nous guérit également de cette façon-là. Où es-tu tombé? La deuxième situation qu'on va voir, c'est dans 1 Roi au chapitre 17. Il y a une femme qui est dans l'épreuve à cause de la maladie de son fils, puis à cause de la mort de son fils. Sur ces entrefaits arrive le prophète, 1 Roi, chapitre 17. Vous avez certainement lu cette histoire, on ne va pas la lire. Lisez-la chez vous, si vous voulez comprendre un petit peu. Et cette femme, elle vit dans la culpabilité. Dieu l'a bénie, mais une épreuve arrive. Est-ce que même si on a été béni, une épreuve peut arriver? Eh oui, la maladie est là, de surcroît, la mort. Alors regardez ce que cette femme va dire. 1 Roi 17, voyez, 1 Roi 17, verset 17. Après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade. Et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Cette femme dit alors à Élie, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils ?» Voyez, tout d'un coup, cette femme qui est là dans le chagrin, dans le deuil, dans la souffrance, elle dit « Mais est-ce que tu es venu me rappeler le souvenir de mon iniquité ?» Voyez, elle avait un problème. Il y avait un souvenir dans sa vie qui n'avait pas été déposé. Vous savez qu'il y a des souvenirs qui peuvent blesser? Peut-être il y a des souvenirs qui vous ont blessé, ça arrive. Moi, ça m'est arrivé, il y a des choses qui m'ont vraiment fait souffrir. Et il m'a fallu du temps pour les déposer au Seigneur. Ben, merci Seigneur. Merci Seigneur. Je me souviens d'une sœur d'ici, qui a connu un moment difficile. Et elle était venue me voir un jour. Elle me dit, monsieur Gau, je ne sais pas si j'ai pardonné mon mari. Et elle pleurait, elle me dit, voyez. Elle me dit, voyez, j'ai pas pardonné. Quand j'y pense, je pleure. Ah, j'ai dit. Et moi, la semaine d'avant, j'étais à un séminaire et on m'avait posé plein de questions sur mon séjour à Tahiti. Et ça a duré longtemps. Et au bout de demi-heure, on m'a posé une question que ça m'a fait pleurer. Mais pourtant, je savais que j'avais pardonné. Et je savais que j'étais guéri. Mais ça fait du bien d'avoir traversé certaines choses. Parce que ce n'est pas parce qu'on n'a pas pardonné, qu'il n'y a pas de souvenir. Dieu ne nous rend pas amnésiques parce qu'on est spirituel. Dieu nous a donné un cerveau et une mémoire, et heureusement. Mais voyez, cette femme, elle représente ceux qui ont un problème. Alors, ce n'est pas dit qu'il y avait une cause à effet avec la maladie et le décès de son fils. Mais voyez, quand on n'est pas guéri des souvenirs, on peut dire, oui, s'il m'arrive ça, oh, s'il m'arrive cette tuile, c'est parce qu'il m'est arrivé ça dans le passé. On entend souvent ça. Les païens le font, ça. Ah, s'il m'est arrivé ça, c'est parce que c'est le retour de manivelle. Mes frères et sœurs, quand Dieu nous a pardonnés, il nous a pardonnés. Et il faut le comprendre, ça. Cette femme, voyez, qui avait pourtant été en contact avec le grand prophète Élie, eh bien, à un moment donné, quand elle a eu une épreuve, elle a attribué ça à un souvenir. Mes frères et sœurs, quand vous avez demandé pardon à Dieu, il vous a pardonné. Dieu, il guérit comme ça. C'est pour ça qu'il faut apprendre à se décharger. On va y venir dans la conclusion. Moi, je pense qu'il n'y avait peut-être aucun rapport. Mais voyez, faites attention. Faites attention. Quand vous demandez pardon à Dieu, c'est vraiment terminé. La troisième expérience, c'est la femme samaritaine. Vous avez vu la femme samaritaine. Vous connaissez l'histoire. Hein, elle est là au bord du puits. Elle attend. Enfin, non, c'est Jésus qui l'attend. Hein, et elle parle de l'eau du puits. Jésus lui parle, lui, d'une autre eau qui pourrait la désaltérer. Et elle dit, mais on va lire ce qui nous intéresse. Nous. Ce soir, ce n'est pas ça. Ce qui nous intéresse, dans Jean au chapitre 4, hein, parce qu'elle veut cette eau, elle veut de l'eau. Elle est en contact avec Jésus. Jésus lui propose une eau spirituelle. Et bien sûr, elle dit, donne-moi cette eau. Regardez ce qui va se passer. Je ne sais pas si vous avez déjà fait attention. Jean chapitre 4, verset 15. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Vous voyez, il y avait un amalgame, elle ne comprenait pas que c'était une eau spirituelle. Qu'est-ce que Jésus lui dit ? Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. Vous avez vu la réponse de Jésus ? Est-ce que Jésus aurait pu la désaltérer de suite ? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que fait Jésus ? Appelle ton mari. Alors, il dit, mais je n'ai pas de mari. Alors, on lit la suite quand même. Mais la femme répondit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu cinq maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Qu'est-ce qu'il faut en penser ? Jésus, à la place de lui parler de l'eau vive de nouveau, lui parle de son mari. Ce qui veut dire qu'il y a certaines bénédictions que Dieu ne donnera que si on met notre vie en règle avec lui. C'est la preuve, ça. Est-ce que vous comprenez ? Il y a des gens qui veulent être bénis, qui veulent être guéris, qui veulent être touchés, mais quand le Seigneur met le doigt sur le problème, ils ne veulent pas le régler. On le voit dans bien des situations. Je ne vais pas donner des exemples, ce n'est peut-être pas utile. Jésus voulait. Si Jésus était là, c'est qu'il voulait la bénir. Oui ou non ? Il était là pour qui ? Pour elle. S'il était là, c'est qu'il voulait la pardonner. Quand Jésus bénit, il pardonne surtout. Voyez ? Mais cela voulait dire que cette femme devait aller au fond des choses, qu'elle accepte déjà que la situation illégale dans laquelle elle se trouvait soit mise à nu. Et ça, c'est important. Quand les gens veulent prendre le baptême, de les amener à mettre leur vie en règle avec le Seigneur. C'est important, parce qu'après, ça reste. Et des fois, on se pose la question, est-ce qu'on peut... Parce que maintenant, vous savez, il y a le mariage, il y a le Pax. Alors, est-ce que le Pax, c'est soi-disant légal ? Mais enfin, même tous ceux qui sont paxés avouent que ce n'est pas un engagement. Alors, je crois qu'il faut faire attention. Ce n'est pas parce que quelque chose est légal qu'il est moral et spirituel. L'avortement, c'est légal ? Oui ou non ? Est-ce que c'est moral ? Alors, je ne vais pas parler de ça ce soir. Mais Jésus nous montre que pour aller plus loin et pour être au bénéfice de cette eau vive, car quand même on est là pour ça. Et je crois que le Seigneur, il voit nos cœurs, il voit notre monde qui se détruit. Comme on le disait dans la prière, il y a des temps difficiles. Et ces temps difficiles, ils ne vont pas faire en s'arrangeant. Ne vous imaginez pas que les choses vont s'arranger. Mais il y a des prophéties. Je répandrai de mon esprit. Et pour cela, il faut que les cœurs soient libres. Le royaume de Dieu, c'est la grâce, c'est la paix, c'est quand même la joie. Est-ce que dans un monde de tristesse, il peut y avoir la joie dans l'Église ? Est-ce que Dieu change le deuil en allégresse ? Eh oui, il faut pas se laisser aspirer par la mouvance. Il faut dire, mais Seigneur, moi je veux me démarquer, je veux être un chrétien joyeux. Oui, on peut être joyeux. Et pleurer avec ceux qui pleurent, ce n'est pas incompatible. Oui, on peut être heureux et en même temps souffrir et penser aux persécutés. Ben oui, on peut, c'est pas du cinéma. Je crois que quand on est avec le Saint-Esprit, on s'adapte aux situations que l'on rencontre. Mais pour cela, il faut laisser le Seigneur aller en profondeur. Guéris mon âme, souviens-toi d'où tu es tombé. Pourquoi j'ai une plaie à l'intérieur? Et pourquoi ces souvenirs me hantent-ils encore? La quatrième étape, c'est le fils prodigue. Vous savez ce qu'il a fait, le fils prodigue? Il est rentré en lui-même. Il fallait qu'il rentre en lui-même. Et cet homme avait tout gaspillé, tout perdu. Il avait vraiment fait ce qu'il fallait pas. Mais il accepta d'aller au fond de lui-même. Vous voyez, il dira, voilà ce que je ferai. Vous voyez, il prend des décisions. Et je crois que c'était le début de la guérison. Il n'a pas dit, ouais, je ne sais pas, bon, c'est vrai, ce n'était pas bien. J'ai péché, mais encore le frangin, et puis mon père. Vous voyez, il y a des gens, ils disent, je veux bien. Non, il dit, j'ai péché. Qu'est-ce qu'il dit en premier? J'ai péché contre le ciel. Vous voyez, quand on a péché, on n'a pas péché contre les gens. On a d'abord péché contre Dieu. Quand on ment pas à un frère ou à une sœur. Quand on ment, on offense Dieu. Et c'est pour ça qu'il faut aller en profondeur et dire, mais c'est vrai, je suis léger, tiens, peut-être avec la vérité. Je suis peut-être léger avec ceci, avec cela. Seigneur, je me lèverai et j'irai. Et j'irai pas chercher des excuses et dire, ouais, papa, tu sais, je suis parti, mais enfin, quand même, t'étais pas toujours facile. Ou à son frère. Non, je leur dirai. J'ai péché contre le ciel et contre toi. Il accepte de voir les choses en face. Et ça, c'est le secret d'une véritable bénédiction. Quatre exemples qui nous prouvent que pour être guéri, il faut aller au fond des choses. Mais il y a quand même des conditions. La première chose, c'est qu'il faut prier. Beaucoup de chrétiens ne prient pas. Ou ils prient parce qu'on leur dit de prier. Alors ils prient quelques minutes. Mais en vérité, je voudrais blesser personne. En vérité, ils récitent des prières. Ils récitent, Seigneur, bénis la journée, bénis mes parents, bénis ma famille. Alors la formulation, ça ne veut rien dire. Mais on peut réciter des prières. Vous le savez qu'on peut réciter des prières. On peut, même dans son culte personnel, réciter des prières. La prière, ce n'est pas ça. La prière, c'est obtenir. Approchez-vous du trône de la grâce afin de quoi? D'obtenir. Quand on prie pour obtenir. On ne prie pas pour prier. On ne prie pas parce qu'il faut prier. On ne prie pas parce que si on prie, peut-être qu'on se met Dieu de son côté. Ah, moi je prie donc, Dieu doit être avec moi. Mes frères et sœurs, on prie de tout son cœur. On a 10 minutes, mais ces 10 minutes, on les prie avec ferveur. On a plus, merci Seigneur, mais au moins le peu que l'on a, on l'utilise afin d'obtenir la guérison. Si nous voulons voir l'œuvre de Dieu se faire, si nous voulons voir ce premier amour, parce que c'est lié à la prédication de dimanche sur la grâce, cette prédication, c'est presque la suite, de comprendre qu'il faut aller en profondeur et dire, Seigneur, mais je veux prier, tout est grâce. On est dans une semaine de jeûne, mais mes frères et sœurs, si on peut jeûner, si on peut prier, si on peut faire confiance en Dieu, si on peut avoir la foi en Dieu, c'est une grâce. C'est tout est grâce. Vous êtes ici ce soir, comment vous avez pu venir? C'est une grâce. C'est une grâce. C'est une grâce. Il y a des milliers de chrétiens qui ne peuvent pas, il y a des milliers de chrétiens persécutés, il y a des souffrances. On avait une réunion de dimanche, on en a une 48 heures après. Que son nom soit béni. Tout est grâce. Tout est grâce. Mais il faut que nous réapprenions à prier, parce que Dieu veut que sa maison soit une maison de prière. La prière, c'est se mettre à découvert devant Dieu. C'est pas vrai? Quand on prie, on se met à nu devant Dieu, oui ou non? On ne peut pas le faire dans un lieu public, parce que bon, il y a des choses qui sont personnelles. Mais est-ce que quand on est seul devant Dieu, on ne peut pas se mettre à découvert et faire connaître à Dieu tous nos besoins? Par des prières, par des supplications. La prière, ce n'est pas le vague. Il y a des gens qui prient, on leur demanderait, pourquoi tu as prié? Bon, je ne sais pas, je ne sais pas pourquoi je prie. Je crois que quand on prie, on sait ce qu'on prie. On sait ce qu'on demande à Dieu. Quand on demande à Dieu de sauver nos enfants, c'est que on veut que... Dieu est d'accord. Oui ou non? Est-ce que Dieu est d'accord? Mais oui. Ne pensez pas que Dieu est avec vous quand vous dites, Seigneur, sauve mes enfants, sauve mes parents. Dieu, il est derrière vous, il vous appuie. Il n'est pas en train de dire, ah bon, tes enfants? Ah, je ne sais pas. Écoutez, est-ce que tu veux sauver mes enfants, Seigneur? On entend des prières des fois. Écoutez, la prière, c'est Dieu qui est avec nous. C'est Dieu qui travaille. C'est Dieu qui agit. On parlait à midi avec ceux qui sont venus jeûner prier de Paul et Silas, blessés, emprisonnés dans la prison intérieure, sans fenêtre, sans rien, en pleine nuit, attachés, enchaînés. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prient et ils chantent. Ouais, moi je crois qu'ils avaient confiance. Est-ce qu'ils avaient confiance? Et vous savez comment les portes se sont ouvertes, le tremblement de terre, les chaînes sont tombées, tous les prisonniers libres. Moi je crois que c'est une image assez poignante de la prière efficace. Vous ne croyez pas? Dieu était avec eux.
Ils n'ont pas commencé à se dire, ouais, tu vois, on en fait trop, tu vois, on est là, c'est ta faute. Ils auraient pu toute la nuit se disputer. Ils chantaient. Mes frères et sœurs, chantons de tout notre cœur, prions de tout notre cœur, louons de tout notre cœur. Vous êtes dans un temps difficile, eh bien suppliez. Vous êtes dans un temps plus favorable, eh bien louez le Seigneur. Vous êtes dans un temps, je ne sais pas lequel temps, mais soyez vrais avec Dieu. Mais mettez-vous dans la prière. Ne récitez pas des prières. Déposez votre fardeau, déchargez-vous de tous vos fardeaux. Si le fardeau revient 50 fois, est-ce que ça peut arriver qu'un fardeau revienne 50 fois? Eh bien priez 51 fois. Seigneur, je dépose le fardeau. Ça n'arrive pas. Le fardeau des âmes, vous l'avez? Combien de fois vous l'avez eu depuis le premier jour de votre conversion? Tous les jours. Eh bien, tous les jours, on dépose. Ça entretient ce combat spirituel. Et il ne faut pas dire, oui, j'ai prié une fois. Il y a des gens, j'ai lu un bouquin derrière maman, où le gars il dit qu'on n'a pas la foi si on prie deux fois pour le même sujet. Vous voyez? Et ça, ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique, ça. Moi, je crois qu'il faut prier tous les jours et persévérer dans la prière et ne pas se relâcher. Jésus l'a prié plusieurs fois dans le jardin de Gethsémané. Je pense qu'il avait la foi. Quel est mon besoin? Quelle est ma souffrance? Quel est ce problème? Il faut que je le dépose aux pieds du Seigneur. Faites connaître à Dieu tous vos besoins. C'est ce que fait Jérémie. C'est ce que fait Jérémie quand on l'a lu. Mais pourquoi? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Pourquoi? Et Dieu va lui montrer. On n'a pas lu la suite. Vous pourrez la lire. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il prie de tout son cœur. Moi, je ne comprenais pas. Quand j'ai lu Jérémie, j'ai dit, mais c'est pas sérieux, ça. Je me dis, c'est pas possible, un type qui parle comme ça. Un homme de Dieu qui parle de cette façon, qui a parlé des sources, et lui dit, oui, est-ce que tu es une source amère? J'ai dit, mais c'est pas possible. Mais, vous savez, des fois, nos luttes et nos combats nous amènent à dire des choses qu'on ne pensait pas il y a 3 mois. Ça, c'est les luttes et les combats. Donc, prier de tout son cœur. Deuxièmement, il faut s'humilier. Ça, c'est une condition sine qua non. Si nous voulons être guéri, être libéré, être touché, il faut être humble. Dieu fait grâce aux humbles. Tout est grâce, mais quand même, il y a des conditions pour obtenir la grâce, l'humilité. Vous savez, il le dit Jésus, si mon peuple s'humilie, etc., je guérirai son pays. Mais on peut mettre, je guérirai son foyer. Est-ce qu'on peut mettre, je guérirai son foyer? Est-ce que c'est transgresser les Écritures? Bien non, puisque dans le pays, il y a les foyers, il y a les couples, il y a les familles. Donc on peut dire sans se tromper, si mon peuple s'humilie et prie et cherche ma face, je guérirai son foyer. Je guérirai l'Église. Mes frères et sœurs, l'humilité, c'est quelque chose d'important. Trop souvent, des gens ont prié, mais sans être cherché à être humble. On se contente de superficialité. Je prie, oui, mais ça suffit, le Seigneur. Non, c'est ça la superficialité. C'est ça les pasteurs qui traitaient à la légère les plaies du peuple de Dieu. Ça, c'est du rafistolage, vous voyez. On prie, après, on va se détendre. Bon, moi, je suis pour la détente, je suis. Mais il y a des gens, c'est toujours la détente. C'est fini maintenant. On va au cinéma, ça va nous faire du bien, chérie. On va au cinéma, on va aller au resto, ça va nous faire du bien, tu verras. Ça ne règle pas les problèmes. C'est bien un petit resto de temps en temps. C'est bien si un film est potable, regardable. Les jeunes, faites attention à ça. Mais on va aller danser, ça va nous changer les idées. Mes frères et sœurs, ce n'est pas ça l'humilité. Ça ne change pas les problèmes. La solution, c'est de s'humilier devant Dieu. La solution, c'est de dire, oui, je me suis trompé. Oui, je t'ai mal parlé. Oui, je te demande pardon. Il y a des couples qui ont été au divorce parce qu'ils n'ont pas voulu reconnaître qu'ils s'étaient trompés. C'est vrai ou c'est pas vrai? Pour ne pas avoir voulu une fois dire pardon, je te demande pardon mon épouse. Je te demande pardon mon époux. Je me suis trompé. J'ai eu tort de te parler comme ça. Voyez. Et une parole a détruit un couple. Vous savez que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. À cause de l'orgueil. Et dans la fin des temps, c'est un piège. Les hommes seront orgueilleux. Mais ça ne doit pas rentrer dans l'Église. Et il y a des gens qui disent, oh non, moi je ne veux pas m'humilier. J'ai pas envie d'être rabaissé. Mais qu'est-ce qu'il dit le Seigneur? C'est ça qu'il dit. Moi j'ai lu dans la Bible que celui qui s'élève, il sera abaissé. Et que celui qui s'abaisse, il sera élevé. Et l'humilité, ça s'apprend. Seigneur, apprends-moi à reconnaître mes fautes. Je me suis trompé, je demande pardon. Est-ce qu'il y a de la honte à demander pardon? Mes frères, c'est ça la guérison. Il y a des gens qui ne veulent pas. Non, il peut courir. Ne riez pas. Parce que des foyers ont été détruits, des foyers chrétiens, à cause de l'orgueil. Non, je ne m'abaisserai pas. Et pourtant, celui qui parle comme ça, il sera abaissé. Et celui qui s'humilie, il sera élevé. Même un roi, je pensais en préparant cet après-midi cette prédication, à un roi des plus pervers qui a existé. Regardez dans 1 Roi au chapitre 21 ce qui s'est passé. Franchement, c'est là que vous voyez, et c'était dans l'Ancien Testament, mais un roi, mais un mauvais roi. Vous lirez son histoire, c'est un des plus mauvais rois qui existait. 1 Roi chapitre 21, regardez. Ah mais c'est quelque chose, je vous assure. Hein. C'est là qu'on voit comment Dieu est bon, je vous le dis. Cet homme, c'était un homme méchant, une femme méchante, un couple diabolique. Mais regardez un moment de sa vie, cet homme. Alors, verset 28, 1 Roi 21, 28. On va lire le verset. On va lire un peu plus quand même, c'est intéressant. Verset 25. Il n'y a eu personne qui se soit vendu comme Achab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et Jézabel, sa femme, l'y excitait. Vous voyez le couple. Il a agi de la manière la plus abominable, en allant après les idoles, comme le faisaient les Amoréens, que l'Éternel chassa devant les enfants d'Israël. Après avoir entendu les paroles d'Élie, c'est le roi, hein? Après avoir entendu les paroles, Achab déchira ses vêtements, il mit un sac sur son corps, et il jeûna, il couchait avec ce sac, et il marchait lentement. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie le Tishbite en ces mots. Regardez comment c'est merveilleux. As-tu vu comment Achab s'est humilié devant moi? Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie. Ce sera pendant la vie de son fils que je ferai venir le malheur sur sa maison. Et vous avez vu? Le cœur de Dieu est touché. Quand on s'humilie, c'est un principe spirituel. C'est pas la première fois, le roi Manassé, c'était pire encore que lui. Pire! Et le cœur de Dieu a été touché. Il n'avait même pas fini sa prière. Que Dieu a été touché, il a changé les choses. Quand on s'humilie, Dieu guérit. Dieu guérit un homme, une femme, un couple, un foyer, une famille. C'est beau de voir des parents qui demandent pardon à leurs enfants et vice-versa. C'est beau de voir dans une église les chrétiens qui savent se demander pardon. Oh, je t'ai mal parlé, pardonne-moi. C'est pas beau ça? Mais c'est pas ça l'évangile en fait. L'évangile, c'est pas un évangile de pardon continuel, de pardonner continuellement. Voyez, ce roi... On voit que Dieu, excusez-moi le terme, c'est un peu péjoratif d'après moi, on voit que Dieu est content. Parce que c'est comme ça que Dieu bénit. Autant de fois on voit le Dieu s'enflammer de colère parce qu'ils font des choix qui vont les enlever de la volonté de Dieu. Mais si Dieu est touché, c'est parce que l'humilité nous remet toujours dans le plan de Dieu. Il est touché, il est attentif. Bien sûr que Dieu résiste aux orgueilleux. Si le Seigneur, je demande pardon et tout ça c'est du blablabla. Mais quand c'est du fond du cœur... Ce roi qui avait tout pouvoir, qui a fait que des choses mauvaises, il a dit, mais c'est sérieux, je suis en danger. Dieu bénit les humbles. Alléluia. Ce soir, si nous voulons une guérison, si nous voulons une église qui retrouve le feu du premier amour, il n'est pas question que de dire, voilà, je vais redépendre de ta grâce. Seigneur, c'est clair, j'ai compris dimanche. La foi, c'est bien, la confiance, c'est bien, les efforts, c'est bien, mais que par grâce. Ok, ça c'est le premier pilier. Mais le deuxième, c'est de dire, Seigneur, montre-moi. Montre-moi s'il y a quelque chose. Éclaire-moi. Quelqu'un disait tout à l'heure dans sa prière, oh, montre-nous s'il n'y a pas des interdits dans l'église. Montre-nous s'il n'y a pas des obstacles à la prière. Eh bien, c'est bien. Ça commence comme ça. Le troisième remède, bien sûr, c'est confesser son péché. Vous connaissez ce texte de Jacques. Confessez les péchés les uns aux autres. Priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Voilà. Le Seigneur, il nous demande de confesser les péchés. J'ai commis un péché. Eh bien, je le confesse. Je le confesse. C'est important, mes frères et sœurs. Alors, si ça concerne l'Église, il faut le faire dans l'Église. Si ça concerne un frère, il faut le faire comme frère. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est comme ça qu'on retrouve souvent la paix. Beaucoup de chrétiens n'ont pas la paix parce qu'ils n'ont pas confessé leurs péchés. Et si nous n'apprenons pas à confesser les péchés, nous aurons énormément de mal. Et le dernier remède, je termine avec ce dernier remède, c'est de vivre en Jésus-Christ. On va terminer avec un texte qui se passe dans Ésaïe. Dans Ésaïe, vous savez, notre vie, elle est comparée à une vigne. Vous le savez, ça, je ne vous apprends rien. Qui l'a appris ce soir, ça? Qui c'est qui a appris ce soir que Dieu compare notre vie à une vigne? Bon, ça va. Ésaïe, chapitre 5. Si vous venez pour la première fois, c'est normal que vous l'appreniez ce soir. Regardez. Ésaïe, chapitre 5, je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Alléluia. Voilà, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que Dieu est obligé de faire? Il en remua le sol, ôta les pierres et y mit un plant délicieux. Amen. Cette vigne dont le Seigneur parle dans Ésaïe, elle va pas bien. Elle a besoin d'être remuée. Il le dit, non, remuée, non? Il en remua le sol. Ce mot, moi, je l'aime bien. Est-ce que vous acceptez que Dieu vous remue? Oui, votre sourire est un sourire approbateur ou désapprobateur? Est-ce que vous acceptez que le Seigneur vous remue et qu'il ôte les pierres? Je pense à mon âme ce soir. C'est beau quand dans une église, on s'interroge et on se dit, mais je pense à mon âme, mon âme. Mon âme, ce soir, où tu en es, mon couple, où j'en suis dans mon foyer, dans ma famille, dans l'église où j'en suis, etc. Quel est l'état de ma vigne? Quel est l'état de mon cœur? Et si on applique des solutions superficielles, ça ne va pas aller. Dans cette vigne, Dieu, il emploie des méthodes draconiennes. Il n'y va pas par quatre chemins, il remue le sol. Seigneur, je t'autorise à remuer le sol de mon cœur. Je t'autorise à faire remonter les pierres. Je reviens à la croix. Nous chantons un cœur des fois qui contient quatre phrases, mais il y a un message dans ces quatre phrases. Si j'oubliais Gethsémané, si j'oubliais ton grand amour, si j'oubliais ton agonie, conduis-moi au calvaire. Mais ce cœur, moi, il m'a fait pleurer des fois. Conduis-moi au calvaire. Seigneur, si je ne porte pas de fruits, ce n'est pas la détente, il en faut, je reviens, mais conduis-moi au calvaire. Ouvre-moi les yeux sur tes mains percées. Ouvre-moi les yeux sur ton corps brisé. Ouvre-moi tes yeux lorsque tu étais là dans le palais d'Hérode, qui t'ont attaché, qui t'ont déshabillé, qui t'ont flagellé, qui t'ont mis une couronne d'épines. Mais pourquoi tu as fait tout ça, au fait? Si c'est pour moi. Seigneur, remue mon cœur de nouveau, s'il te plaît. On peut faire cette prière? Remue mon cœur. Je veux retrouver cette sensibilité. Je veux avoir cette joie. Oui, je crois que c'est vrai que tout va mal. Et le diable, il veut utiliser ces choses pour nous entraîner dans cette névrose. Mais moi, je crois que le Saint-Esprit, lui, il veut nous entraîner dans son onction et que nous servions de plantation à la gloire du Seigneur. Je termine quand même avec un verset, puisque je l'avais sur mon cœur. Dans Deutéronome, vous savez, c'est Dieu qui conduit tout. Dans Deutéronome, chapitre 32, verset 39, Dieu rappelle qu'il est Dieu. Il est Dieu. Il règne en Tunisie. Vous vous en doutez peut-être, mais Dieu règne partout. Dieu règne, c'est écrit que Dieu règne sur les nations. Bon. Dieu règne. Et je voudrais conclure avec ce verset pour nous rappeler quand même qu'il y a des blessures que Dieu permet. Deutéronome 32, 39. Parce que pour qu'il y ait une guérison, il faut qu'il y ait une ouverture. Pour enlever quelque chose dans le corps, il faut une ouverture. Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu, qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre et je fais mourir, je blesse et je guéris, et personne ne délivre de ma main. Pour pouvoir bénir, il faut que Dieu crée parfois une blessure. Il y a beaucoup de cœurs endurcis, des gens qui disent « moi j'ai tellement souffert, j'ai tellement pleuré, j'ai tellement manqué, et puis de toute façon c'est comme ça, et puis maintenant j'ai besoin de rien. » Et ils se carapacent et ils s'endurcissent, et pourtant, il faut parfois que Dieu nous blesse. Comme Jacob, lorsqu'il s'est retrouvé tout seul, Dieu l'a blessé. Et en le blessant, Dieu l'a guéri. Quand Dieu nous brise, ce n'est pas pour nous écraser. Quand Dieu nous brise, c'est toujours pour nous guérir. Il ne brise que ceux qui ont besoin d'être brisés, bien sûr. Pour qu'il y ait guérison, il faut qu'il y ait blessure, il faut qu'il y ait ouverture. Et si nous disons, Seigneur, j'ouvre mon cœur, le jour de la Pentecôte, ils ont eu le cœur transpercé. Une version dit, ils ont eu le cœur vivement touché, mais il y a une version qui dit, ils ont eu le cœur transpercé. L'ouverture s'est faite et la guérison a eu lieu. Souviens-toi, mon frère. On ferme les yeux quelques instants. Réfléchissons bien, ne prions pas pour prier. Mais là, moi je crois qu'en une seconde, le Seigneur, il peut vous montrer quelque chose. Vous le croyez, mes frères et sœurs? On a un Dieu qui veut guérir. Jésus, il est venu pour guérir les cœurs brisés. Jérémie a dit, mais pourquoi m'appeler? Pourquoi m'appeler? David, mais guéris mon âme, j'ai péché. C'est peut-être pas par rapport au péché, c'est peut-être la négligence, c'est peut-être la part... C'est pas important les causes. Ce qui est important, c'est le Dieu qui guérit. Ce qui est important, c'est la miséricorde de Dieu. Ce qui est important, c'est la puissance du Saint-Esprit. Ce qui est important, c'est que votre cœur soit ouvert. Ton cœur est-il ouvert ce soir? Ton cœur est-il ouvert, ma sœur? Ton cœur est-il ouvert, mon frère? Quelqu'un veut-il être guéri? Quelqu'un dit, oui Seigneur, je vais être honnête. Tu vas mettre le doigt sur... C'est peut-être votre vocabulaire grossier sur lequel Dieu veut poser son doigt. Mais regarde comment t'entretiens-tu. Tu as attristé le Saint-Esprit. Tu me demandes d'être baptisé du Saint-Esprit et tu parles comme un charretier. Mes frères, que Dieu mette le doigt, que nous sachions prier. Est-ce qu'on pourrait dans notre cœur prier? Vous avez vu Acab? Moi, je n'aurais pas pardonné cet homme. J'aurais dit, celui-là, il faut qu'il meure de suite à cause du mal qu'il fait. Eh bien, Dieu l'a pardonné. Et ça veut dire que Dieu vous pardonnera, quel que soit le mal que vous ayez fait. Et c'est un souvenir? Il y a quelqu'un qui se reproche un souvenir? Peut-être même avant votre conversion, alors que Dieu l'a oublié. Si vous en parliez à Dieu, il vous dirait, mais de quoi tu me parles? Je ne sais même pas de quoi tu me parles. Et c'est vrai ce que je vous dis. Il y a un souvenir? Il y a un problème à régler? Il y a un problème caché? Notre Dieu est grand. Il blesse et il guérit. Il est grand, le Seigneur. Rien ne le touche. Quand la Bible dit qu'il y aura le tumulte parmi les nations, ce qui se passe, il nous a dit que notre Dieu qui siège dans les cieux rit. Rien ne l'impressionne. Il sait tout. Il connaît ton cœur. Et il te dit ce soir, mon fils, je t'aime. Je t'aime de l'amour éternel, je te guéris. Y a-t-il quelqu'un qui veut se lever à sa place et dire « Oui, Seigneur, pose ta main. » Tu vois ce péché, c'est entre vous et Dieu, c'est pas la peine de le dire haute voix. Ça serait utile si ça concernait l'Église, bien sûr. Mais y a-t-il quelqu'un qui dit ce soir « Je dépose ce fardeau. » Ce fardeau, je le dépose. Ce souvenir qui me hante, je veux le déposer une fois pour toutes. Non, l'ennemi ne m'atteindra plus avec ce souvenir. C'est terminé. Comme le fils prodigue, eh bien, je vais me lever et courir là où il faut régler. Si quelqu'un veut se lever, levez-vous. Je vais prier pour vous. Je crois à la délivrance. Moi, je crois à la puissance du Saint-Esprit. Peut-être quelqu'un dit, moi, je veux une bénédiction. Mes frères, le Saint-Esprit a remplacé Jésus. Le Saint-Esprit est venu sur la terre entière. Il est là ce soir. Il est là pour vous guérir. Peut-être il y a une personne qui dit, mais moi je veux donner ma vie au Seigneur, je veux la lui redonner. Y a-t-il un chrétien qui éprouve le besoin de dire, oh oui, je veux retrouver les premières œuvres. Ce que je faisais au début, puisque c'est toi qui me le demandes, de pratiquer les premières œuvres, eh bien je vais m'atteler de nouveau à ça. Je vais m'y atteler et tu vas me faire grâce, Seigneur. On va prier. S'il y a quelqu'un d'autre qui veut se lever, levez-vous. Sentez-vous libre. On est devant le Seigneur. On n'est pas devant un pasteur, devant une église, on est devant le Seigneur. Et attendez-vous Dieu. Vous savez, la foi, c'est faire confiance à la puissance de Dieu. Je pense à la syrophénicienne, elle s'est approchée pour sa fille. Peut-être quelqu'un veut expérimenter la puissance de Dieu pour quelqu'un. Dieu honorera votre foi. Priez pour quelqu'un de votre famille qui est malade, pour un de vos enfants qui n'est pas converti. Dieu est tout puissant. Si mon peuple s'humilie et prie, S'il cherche ma face et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je le guérirai. David a dit à Dieu, guéris mon âme, parce qu'il savait que Dieu le guérirait. Seigneur Jésus, nous sommes à tes pieds et heureux d'y être. Ce n'est pas une contrainte, c'est un privilège, Seigneur. Nous pourrions tous, je le sais, Seigneur, être déjà morts et en enfer avant de t'avoir rencontré. Tu nous as sauvés, tu nous as favorisés, tu nous as bénis, nous sommes devenus des héritiers. Seigneur, comme ton amour est grand. Et je veux te prier pour ces bien-aimés qui se sont levés. Que ce soir, ta guérison les touche. C'est toi, par la puissance du Saint-Esprit, qui guéris. Tu es l'Éternel qui guérit. Tu es l'Éternel qui libère. Et je demande la bénédiction sur ses bien-aimés. Merci Seigneur Jésus. Merci mon Dieu. Amen.